Je commence ce jour le cours de propédeutique en écriture sainte et donc que ceux qui vont m'écouter veuillent bien me pardonner car je vais dire beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Mais il faut bien commencer. Aujourd'hui nous allons développer trois points. Le premier concerne la révélation biblique comme parole de Dieu adressée à l'homme. Le deuxième point, l'inspiration des Écritures. Et le troisième point, la formation du canon des Écritures. Alors en ce qui concerne ce troisième point, étant donné qu'il est assez vaste, nous le développerons sur deux leçons. Venons-en au premier point, la révélation biblique. Alors la Bible, nous avons coutume en langue française d'employer ce mot au singulier, alors que Biblia désigne une collection de livres qui regroupe l'Ancien et le Nouveau Testament, pour ce qui concerne la Bible chrétienne. Ces livres sont paroles de Dieu adressées à l'homme. Dans ces livres, Dieu nous parle. Sous la matérialité du texte, c'est une personne qui nous parle, et puisqu'elle nous parle, nous l'écoutons, du moins nous devons l'écouter. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu appelle la réponse de l'homme, et donc, ça c'est important, tout commence par l'écoute. Saint Paul nous dit en Romains 10, 17, la foi naît de l'écoute. Voyez-vous, cet acte est fondamental. D'où, son importance dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, autant dire dans toute la Bible. Dieu nous parle, nous écoutons, nous accueillons sa parole, qu'est-ce que ça veut dire accueillir cette parole? Ça veut dire lui faire confiance, lui ouvrir notre cœur et lui faire confiance. Nous reconnaissons par cet acte cette parole comme vérité. Dieu me parle, j'écoute, j'ouvre mon cœur, cette parole entre en moi, et je la reconnais comme vérité, autant dire que je lui fais confiance. C'est l'acte de foi qui n'est rendu possible que par la grâce du Saint-Esprit qui agit en nous, parce qu'en vérité, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui ouvre le cœur de l'homme. À charge pour l'homme de s'ouvrir à cette écoute, parce que Dieu respecte la liberté de l'homme, et il attend de l'homme qu'il réponde à cette parole qui lui est adressé. Alors, quelques exemples bibliques sur l'importance de l'écoute. Je vais citer quelques versets, hein, je vais me limiter, bien sûr, comme vous en doutez. Jérémie 7, 2. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là tu proclameras cette parole et tu diras « Écoutez la parole du Seigneur, vous tous judéens, qui entrait par ses portes pour adorer le Seigneur. » Proverbe, dans le livre des Proverbes, 1:8, « que le sage écoute, et il augmentera son savoir. » En Deutéronome 6, verset 4, « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. » Et ça appartient à la prière tout à fait essentielle dans la prière Israël, qu'on appelle le Shema Israël. Et dans le Nouveau Testament, bon là je me suis limité à trois citations de l'Ancien Testament, mais on pourrait en trouver d'autres bien sûr, et vous pouvez en chercher d'autres. Dans une attitude familière, je parle de l'Évangile, quand Jésus enseigne la foule, il monte sur une barque s'éloigne quelque peu du rivage, la foule est sur le rivage, et le Seigneur Jésus-Christ commence son enseignement, comme par exemple celui de la parabole du semeur, en disant « Écoutez !» Encore le mot « écoutez », le verbe « écouter ».« Écoutez un semeur sorti pour semer », etc., etc. Donc, il ressort de ces quatre courtes citations bibliques que l'écoute comme telle, on ne peut pas la dissocier de l'accueil de la parole. On ne peut pas la dissocier. Celui qui écoute doit faire la vérité. Et Dieu sait que cette importance de faire la vérité est soulignée dans de nombreux versets bibliques. Ouvrir son cœur, sachant que c'est le Seigneur lui-même qui ouvre le cœur de l'homme, comme il est dit en Actes 16, verset 14, je cite. Alors c'est à propos de lorsque Paul se trouve à Philippe, et on parle là de Lydie. Le Seigneur lui ouvrit le cœur de sorte qu'elle s'attacha aux paroles de Paul. Actes 16, 14. Alors, écouter, accueillir, ouvrir son cœur, dans le but de mettre en pratique cette parole, de lui obéir. Comme il est dit en Isaïe 50, verset 5, il ouvre l'oreille de son disciple pour qu'il lui obéisse. Donc mettre en pratique la parole. C'est la part de l'homme qui doit faire cette parole. Qu'est-ce que ça veut dire faire cette parole? Ça veut dire que la parole de Dieu doit s'accomplir en lui. Et je citerai un verset évangélique célèbre. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Donc vous voyez bien que on ne peut pas dissocier l'écoute de la mise en pratique. Je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Et à l'inverse, celui qui écoute mais qui ne met pas en pratique, il construit sur le sable, bien sûr. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est également lui obéir. Obéir à la parole. C'est l'obéissance de la foi qui naît de l'écoute, de la prédication entendue, comme le dit saint Paul en Romains 1, 5, déjà cité. Alors à l'inverse, l'Écriture nous parle aussi de l'homme qui ne veut pas écouter. Ainsi en est-il dans Deutéronome 18, versets 16 à 19. Cet homme qui ne veut pas écouter, il est donc sourd aux appels de la parole de Dieu. Et il est employé une expression intéressante pour signifier cette surdité à la parole de Dieu. C'est « son oreille et son cœur ne sont pas circoncis ». Je cite Jérémie 6,10. Leur oreille est vraiment incirconcise. Ils sont incapables d'être attentifs. Jérémie 6,10. Incapables d'être attentifs. Vous savez, dans la divine liturgie, souvent, on dit soyons attentifs. Donc, il faut être réceptif à l'écoute, parce que Dieu nous parle. Et dans le livre des Actes, 7,51, il est dit « Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Et le Seigneur a cette parole très dure dans l'évangile de Jean, en 8,43-47. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Il pose la question, parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » C'est dans le cadre d'un entretien avec les scribes et les pharisiens. Mais il y a une autre caractéristique s'agissant de l'écoute de la parole que l'on trouve dans la prophétie et dans l'évangile. C'est que se passera-t-il, plus exactement que se passe-t-il, quand les temps messianiques adviennent, puisque avec le Christ, les derniers temps, les temps messianiques sont advenus. Isaïe, le saint prophète Isaïe, nous dit que dans les temps messianiques, les sourds entendront et les aveugles verront. Les sourds entendront et les aveugles verront. Et ces temps messianiques, comme je viens de le dire, sont inaugurés par le Christ. Car lorsque le Christ vient, au moment où Dieu, le Père, l'a fixé, selon le kairos du Père, eh bien, les temps sont accomplis, les temps sont les derniers. Le monde peut durer encore des milliers d'années, il n'empêche que, avec la venue du Christ, les derniers temps sont advenus. Et le texte fameux de Luc 4, 18-19, chapitre 4, verset 18-19, où dans ce texte nous voyons le Seigneur faire la lecture de la prophétie d'Isaïe, Isaïe 61, verset 1 à 2, à la synagogue de Nazareth, renvoie très explicitement à l'avènement des temps messianiques advenu en sa personne. Voilà. Donc je vais revenir sur l'expression « Écriture sainte ». À ma connaissance, l'expression n'est pas employée dans l'Ancien Testament. Elle l'est à deux reprises, sous deux formes dans le Nouveau Testament. La première fois au pluriel, par saint Paul, Romains 1, 2, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. Et toujours dans la deuxième à Timothée de saint Paul, 3, 15, je cite, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres ». Donc le terme « graphé », « agiai graphei », « écriture sainte », Écriture, écriture sainte, désigne pour le Christ lui-même les évangélistes et au-delà les pères apostoliques, l'ensemble des livres de l'Ancien Testament. On le voit en Luc 4, 21, en Jean 19, 24, en Matthieu 21, 42, et chez les pères apostoliques, la première épître de Clément de Rome, 45-2, la deuxième épître de Clément de Rome, 2-4, et l'épître à Barnabé, 4-7. Néanmoins, il y a une chose qui est intéressante également, c'est que, en plus des deux références concernant l'épître aux Romains et la deuxième à Timothée de saint Paul que j'ai citée, dans la deuxième de Pierre, au chapitre 3, verset 16, l'apôtre Pierre mentionne les épîtres de Paul et les autres écritures. Plus loin dans le temps, saint Irénée de Lyon emploie le terme « graphé » pour désigner les livres de la Première Alliance, mais aussi parfois celle du Nouveau Testament. Saint Justin, philosophe et martyr, lorsqu'il décrit le culte chrétien, c'est à ma connaissance la toute première description du culte chrétien que nous avons chez Justin Martyr, il dit que le jour de la résurrection, le dimanche donc, on lit la prophétie et on lit les mémoires des apôtres. Ça renvoie donc au Nouveau Testament, Épître et Évangile. Et Barnabé l'emploie explicitement, lui, cette expression d'écriture sainte, pour désigner des versets de l'Évangile. Bon, voilà, donc je n'irai pas plus loin sur ce point précis. Je reviens sur l'idée que cette écriture, donc, sous sa matérialité même, renferme une parole vivante, celle de l'auteur de toutes choses, celle de la source de la vie. Alors, c'est une parole vivante, et de quelle manière Dieu parle ? Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, premier chapitre, verset 1-2, « Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles. » Donc, Dieu a parlé au Père par les prophètes, et dans les derniers jours, dans les temps messianiques, lorsqu'adviennent les temps messianiques, il parle par le Verbe éternel fait homme, il parle par le Fils établi héritier de toutes choses. De quelle manière il parle dans cet ensemble de livres que nous appelons Bible ? De plusieurs manières. On le voit parler par exemple en songe, en vision. Par exemple, référez-vous à Nombre 12, 6, 1 Roi 22, 13, 17. Il parle aussi par une inspiration intérieure, bon, qu'on ne peut pas définir, ça c'est dans, comment dire, oui, c'est indéfinissable tout simplement, hein. Il parle très directement à Moïse, Nombre 12, 8, je cite, « Je lui parle directement, je me révèle à lui sans énigme. » Il parle aussi en adressant à l'homme une parole tout à fait impérative, telle que elle est adressée à Abraham en Genèse 12, 1. Et cette parole impérative, elle est adressée également aux prophètes. Donc Dieu se révèle en parlant pour mettre l'homme, plus exactement pour introduire l'homme dans une communication avec lui, cette communication ayant pour but la communion avec lui. Pourquoi ? Parce que sa parole est révélation. Par sa parole, il se révèle. Il ne révèle pas son essence, bien sûr, mais il révèle de sa personne ce que nous avons à connaître pour notre salut, et uniquement ce que nous avons à connaître de lui pour notre salut. Cette révélation, elle est révélation également du mystère caché des choses, des événements de l'histoire humaine. Elle est aussi révélation de ses promesses faites à l'homme. Elle est révélation de ses dons faits à l'humanité. Elle est révélation de son alliance. Terme alliance est fondamental. C'est par exemple les 10 paroles données à Moïse au Sinaï, Exode 20, 1, 17, Deutéronome 5, 6, 22, Exode 34, 28. Donc c'est le thème de l'alliance ici. Alliance dont il prend l'initiative. Ce n'est pas un contrat entre deux parties contractantes égales comme dans un traité diplomatique. Ou plus ou moins égal comme dans un traité diplomatique. Là, c'est le Dieu du ciel, l'origine de toute chose, qui prend l'initiative de nouer alliance avec l'homme et à travers l'homme, avec toute sa création. Et enfin, elle est révélation de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Celle prophétisée par Jérémie, 31-33. Cette nouvelle alliance, qu'est-ce que c'est ? C'est celle de la loi écrite dans les cœurs, de sorte que Dieu met son esprit, met ses prescriptions dans un cœur nouveau, nous dit Ézéchiel en 36-27. Et saint Paul ajoutera que c'est l'alliance de l'esprit et non de la lettre, 2 Corinthiens 3-6. Donc Dieu se révèle en parlant, il révèle ce que nous devons connaître de lui afin d'aller vers lui, c'est-à-dire pour notre salut. Il révèle le mystère caché des choses et des événements de l'histoire. Il révèle ses promesses, son alliance, et il révèle la nouvelle alliance, celle qui est instaurée par la loi écrite dans les cœurs, celle qui est prophétisée par Jérémie et celle qui sera réalisée avec la venue du Verbe de Dieu en ce monde. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi, si la nouvelle alliance est inscrite dans les cœurs, la nouvelle alliance et les prescriptions de cette nouvelle alliance sont inscrites dans les cœurs, pourquoi nous avons, nous, chrétiens, une écriture ? Dans l'absolu, il n'y en a plus nécessité. D'ailleurs, saint Jean Chrysostome dit quelque part que si nous étions totalement dans le Saint-Esprit, nous n'aurions pas besoin de l'écriture. Mais néanmoins, nous avons une écriture car nous vivons encore dans ce monde. Le temps de ce monde n'est pas encore consommé. La consommation des siècles n'est pas encore advenue et nous avons besoin de garder précisément jusqu'au bout l'enseignement du Christ. Nous avons besoin de garder une mémoire vivante de l'accomplissement par le Christ du dessein de Dieu en faveur des hommes. Je rappelle à ce propos-là que l'Écriture elle-même, dans l'Écriture elle-même, toute l'Écriture, depuis la Genèse jusque au dernier Amen de l'Apocalypse, eh bien, tout converge vers le Christ. Tout converge vers le Christ, qui est l'alpha et l'oméga de l'Écriture. Et Origène, là-dessus, dans un de ses commentaires, nous dit quelque chose de très intéressant, je cite, « Le Logos divin a la clé de David, et depuis qu'il est venu avec cette clé, il ouvre les Écritures qui étaient closes avant sa venue. » Parce que les deux parties de l'Écriture sont indissolublement liées. C'est une affaire certaine. Et le Nouveau Testament fait souvent référence à l'Ancien Testament, mais de la même manière, l'Ancien Testament, avec tout ce qu'il contient, avec la promesse de la prophétie, ne s'éclaire que par le nouveau. C'est-à-dire que sans le Christ, comme nous dit Origène, les Écritures sont closes, car tout converge vers lui. Donc ça veut dire que Dieu nous parle par son verbe. Et son verbe, ce n'est pas un attribut, mais une personne. Il nous le révèle dans le prologue de l'évangile de Saint Jean. Le Verbe divin est une personne divine qui est dans l'intimité de la Sainte Trinité. De sorte qu'on peut dire que le Christ est présent sous le voile dans l'Ancien Testament et qu'il est dévoilé dans le Nouveau Testament. Donc, Dieu se révèle en parlant. En parlant, Dieu agit parce que il n'y a pas de séparation et entre la parole qu'il prononce et l'acte qui en découle. Le davar hébreu contient bien cette idée. Contrairement chez l'homme où il peut y avoir une distance entre la parole et l'acte, en Dieu, ce que dit la parole s'accomplit. Ce que dit la parole s'accomplit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne parle jamais en vain, comme le dit le saint prophète Ézéchiel, chapitre 6, verset 10. Ça veut dire également que sa parole, eh bien, c'est une réalité dynamique. Ça veut dire également que sa parole opère infailliblement son dessein. C'est la parole de Dieu opère infailliblement son dessein. Isaïe va jusqu'à dire en 55:10 qu'il veille lui-même, c'est une manière de parler bien sûr, qu'il veille lui-même sur sa parole pour l'accomplir. Autrement dit, la parole de Dieu est efficace parce qu'elle produit toujours ce qu'elle annonce. Elle accomplit toujours ses promesses. Donc ça veut dire que la parole de Dieu est toujours créatrice en fait. C'est une idée à ne pas perdre de vue ça. Elle accomplit toujours ses promesses. Deutéronome 9:5, Jérémie 11:5. Dieu parle et agit. Sa parole est une réalité dynamique. On peut dire aussi que cette parole, dans la mesure où elle agit et où elle révèle, elle est, la Bible emploie souvent l'expression, elle est puissance de Dieu. Elle est une lumière qui révèle. Et cette lumière qui révèle, cette lumière qui est puissance de Dieu, eh bien, c'est par excellence le Verbe de Dieu fait homme, le Logos divin, le Verbe de Dieu incarné, le Christ qui est accomplissement des promesses de Dieu, qui parmi nous nous montre les signes du royaume de Dieu. Et ces signes, quels sont-ils? Eh bien, c'est justement, j'emploie plutôt à dessein le terme de signe, parce qu'on voit très bien que ça renvoie à l'accomplissement de la promesse des prophètes. Ces signes, ce sont que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralytiques marchent, etc., etc. Donc le Christ est accomplissement des signes du royaume, comme le dit saint Matthieu 8:8 et saint Jean 4:50-53. En même temps qu'il est comme Dieu, pardon des péchés. Matthieu 9:1-17. Et sa parole est une lampe, comme c'est dit dans l'Évangile, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le chemin. Comme la venue du Christ annonce les temps messianiques, les temps messianiques s'ouvrent avec la venue du Christ, avec l'évangile du royaume, et on remarquera que les paroles du Christ sont souvent énoncées sous forme de parabole. Qu'est-ce que c'est que ces paraboles? Eh bien, ce sont des récits. Alors, il faut se référer au mot grec, parabolé. Parabolé, il est fait de para, à côté, et ballo, ballou, jeter, lancer. Et par ce langage, mais j'y reviendrai ultérieurement de manière détaillée, l'emploi fréquent de ce langage parabolique souligne que c'est un moyen de parler de toute réalité spirituelle, parce que ces réalités spirituelles échappent à notre expérience sensible bien souvent, et ces paraboles se présentent à nous comme une trajectoire empruntant à des réalités quotidiennes qui nous sont familières, qui appartiennent à l'ordre de la création, donc qui sont bonnes puisque ce sont des choses créées. Ça veut nous emmener vers une signification plus haute, vers une signification spirituelle qu'il nous faut découvrir et faire nôtre. Mais ça, je le développerai plus tard. Ces paraboles nous font connaître les mystères du royaume. Pour le moment, je veux revenir à ces paroles du Christ. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le Christ prononce ses paroles avec autorité. En Marc 1, 22, il est dit « Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. » Qu'est-ce qu'on peut dire, en dehors du fait que les paroles du Christ sont prononcées avec autorité, qu'est-ce qu'on peut dire sur les paroles du Christ prononcées dans l'Évangile, telles que nous les connaissons dans l'Évangile? On peut les résumer avec un certain nombre de points. D'abord, les paroles du Christ sont certaines, nous dit l'Écriture. 1 Timothée 1,15. Elle est sûre, cette parole est digne d'une entière créance. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Deuxièmement, il est dit dans l'Évangile que les paroles du Christ ne passeront jamais. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Marc 13,31. Il est dit également que les paroles du Christ sont porteuses de grâce. Et saint Jean nous dira que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est lui-même en sa personne la grâce et la vérité. Et là, et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. C'est en Luc 4, 22. Les paroles du Christ sont dites également avec autorité. On était frappé de son enseignement car il parlait avec autorité. Je l'ai déjà dit, mais là c'est Luc 4, 32. J'ai cité tout à l'heure Marc 1, 22. Et là c'est Luc 4, 32. Les paroles du Christ sont également esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 63. Elles sont aussi vie éternelle, ces paroles. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, 68. Elles sont incomparables, ces paroles. Nul autre homme ne les a jamais prononcées. Les gardes répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » Jean 7, 46. Les paroles du Christ sont également, la parole du Christ est également l'épée du jugement. l'épée du jugement. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12, 48. Et donc, ces paroles sont les paroles du Verbe de Dieu, elles sont divines. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14, 24. Par conséquent, les paroles du Christ, Verbe de Dieu fait homme, eh bien, elles sont aussi promesses pour ceux qui les gardent. Elles sont promesses pour ceux qui les méditent dans leur cœur. Elles sont promesses pour ceux qui les mettent en pratique. Écouter, ouvrir son cœur, méditer dans son cœur, mettre en pratique. On revient toujours aux mêmes choses. Quelles sont ces promesses ? Promesses de la vie éternelle, nous dit Saint Jean. En vérité, ou plutôt Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, 51. Elles sont promesses de l'Esprit Saint, les paroles du Christ. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. Jean 14, 15, 16. Ces paroles du Christ sont aussi promesses de communion avec Dieu. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, 23. Et, par conséquent, elles sont révélations divines. Comme dit saint Jean, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Jean 17, 6, c'est dans la grande prière sacerdotale avant le début de la Passion. Donc de tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent, il ressort que notre Bible, avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est un livre inspiré. Pourquoi ? Pourquoi dire que c'est un livre inspiré ? Un ensemble de livres inspirés ? Eh bien, parce que cet ensemble de livres inspirés a Dieu comme auteur, et qu'ils ont été écrits, plus exactement, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je citerai ce propos, ce que nous dit l'apôtre Paul. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et là, bien sûr, il s'agit de l'écriture sainte. C'est pas toute écriture en général, c'est bien de l'écriture sainte dont parle l'apôtre Paul. Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin, écoutez bien, c'est très important, afin que l'homme de Dieu soit accompli est propre à toute bonne œuvre. Et l'apôtre Saint-Pierre ajoutera, c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et qu'il me soit permis donc de citer les versets, les deux versets de cette deuxième épître de l'apôtre Pierre. Je cite, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille en un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 19-21. Et donc, à la fois parce que nous venons d'entendre de l'apôtre Pierre et précédemment de l'apôtre Paul, nous avons là, par le témoignage apostolique, l'attestation de l'inspiration des Écritures. Et les apôtres sont en ligne directe avec la tradition précédente sur ce plan-là. Les anciens Hébreux reconnaissaient aussi l'inspiration de leurs Écritures. Les Écritures sont donc la forme humaine de la parole de Dieu. Ce qui a fait dire au théologien orthodoxe Paul Evdokimov que dans leur unité, les Écritures s'avèrent théandriques, c'est-à-dire divines et humaines. Et saint Basile ne dira pas autre chose d'ailleurs lorsqu'il affirme que l'Esprit ne prive jamais de raison celui qui l'inspire. Alors je vais citer plus avant la remarque que fait Paul Evdokimov dans son livre qui s'appelle l'Orthodoxie, qui est un classique. Quand l'homme écoute la parole de Dieu, il n'est jamais passif. Il y a toujours une réaction active, créatrice de sa part, dans sa réceptivité même. Certes, les auteurs des livres sacrés sont des auteurs prophètes, et si leur œuvre remonte à la saisie intuitive du message et relève de l'illumination charismatique, celle-ci, fidèle à son principe, sauvegarde pleinement, ça c'est très important, sauvegarde pleinement toute la réalité humaine et ne la viole jamais. Tout prophète reçoit la mission de transmettre la parole reçue à la communauté ecclésiale, et les interprétations patristiques et liturgiques démontrent que si la révélation est donnée une fois pour toutes, elle n'est jamais close dans la richesse de son contenu et passe par la réceptivité créatrice de l'Église. Et le même auteur ajoute plus loin, fort à propos, à mon sens, les Écritures sont la forme humaine de la parole divine, et, je redis ce que j'ai dit il y a quelques instants, dans leur unité s'avère théandrique. Et il ajoute ceci, écoutez bien, c'est très important, la parole de Dieu et la parole humaine, si on les tient séparément, c'est une séparation nestorienne, dit-il. La parole de Dieu seule et la parole humaine seule relèvent d'un monophysisme hérétique. Fin de citation. Donc il doit être clair que l'inspiration de l'Écriture, qui, faut-il le rappeler, ne vient pas de l'homme. Cette inspiration ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Dieu qui en fait le don à son Église. Saint Paul nous dit déjà dans le texte cité de la seconde épître à Timothée que c'est son utilité même pour le salut des hommes qui justifie son inspiration. Donc c'est très clair. Et l'apôtre Pierre, eh bien, il ajoutera de son côté, à propos de l'inspiration de l'Écriture sainte, que bien sûr, c'est l'homme qui parle, mais toujours, toujours en dépendance de la volonté divine, toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il ne peut pas en être autrement, sinon ces livres ne seraient pas des livres inspirés. Donc Dieu parle en langage d'homme, sa parole nous est donnée en langage d'homme, puisque sinon nous ne pourrions pas la comprendre. C'est une parole divino-humaine, un dire de Dieu en langage d'homme, dans lequel Dieu nous parle avec nos mots. Mais tout en nous parlant avec nos mots, il nous apprend sa langue, la seule qui soit digne de lui pour le louer et pour lui rendre grâce. Il découle de cela que la réception et l'interprétation du dire de l'homme inspiré par l'Esprit Saint, donc là, c'est de l'auteur sacré dont il s'agit, c'est cela tout à la fois, l'Écriture sainte. C'est cela tout à la fois, l'Écriture sainte. Ne perdons pas de vue cette unité. Et l'apôtre Pierre ajoutera, dans sa première épître, s'agissant de la révélation prophétique de l'Esprit, sur ce salut ont porté les investigations et les recherches des prophètes qui ont prophétisé sur la grâce à vous destinée. Ils ont cherché à découvrir quel temps et quelles circonstances avaient en vue l'Esprit du Christ qui était en eux, quand il attestait à l'avance les souffrances du Christ et les gloires qui les suivraient. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ce message, que maintenant vous annoncent ceux qui vous prêchent l'Évangile dans l'Esprit Saint envoyé du ciel et sur lequel les anges désirent se prosterner. 1 Pierre 1, 10, 12. Donc, la conclusion de ce qui vient d'être dit sur l'inspiration de l'Écriture s'impose d'elle-même. Puisqu'elle est inspirée, comme nous l'avait dit l'apôtre Paul, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, nous pouvons trouver avec certitude, avec la certitude de la foi, dans cette Écriture, un chemin de salut, puisqu'en elle, tout converge vers le Christ, puisque en elle, c'est lui, Dieu parmi nous, accomplissement du salut, c'est lui qui nous parle. Et Saint Jérôme dira, quand je lis l'Écriture sainte, c'est le roi des cieux qui me parle. Il ne sera pas le seul à dire cette parole. Saint Jean Chrysostome dira lui aussi, l'Écriture sainte, ce sont les lettres du roi des cieux. C'est lui qui me parle, c'est lui qui s'adresse à moi. Et qui s'adresse à moi, qui s'adresse à nous en Église, parce que on ne sépare jamais, on ne peut pas séparer l'Écriture de l'Église. Il y a, et c'est pour cette raison d'ailleurs que la lecture de l'Écriture sainte est toujours un acte liturgique. Il y a bien sûr les lectures que nous faisons le dimanche, que nous faisons dans les offices des heures dans la semaine, qui est un acte liturgique, mais même si je suis seul à lire l'Écriture, c'est toujours un acte liturgique, c'est toujours comme membre de l'Église que je lis l'Écriture, et c'est toujours en union avec mes frères de l'Église que je lis l'Écriture. Donc on ne saurait séparer. C'est une grave erreur de séparer l'Écriture de l'Église. Il y a un lien indissoluble entre les deux, et on le verra plus tard, dans la formation même de l'Écriture néo-testamentaire et dans la formation même du canon, on verra qu'on ne peut pas séparer l'Écriture sainte de l'Église. Alors maintenant, après ce qui a été dit sur la parole de Dieu, Après ce qui a été dit sur l'inspiration de l'écriture, il me faut ouvrir la troisième partie de mon propos par une série de questions qui se posent à nous. On a parlé de l'inspiration de l'écriture. Mais comment reconnaître les livres inspirés par Dieu? Pourquoi les livres du corpus biblique ont-ils été reçus comme sacrés par l'Église à l'exclusion d'autres livres? Deuxième question. Par quel cheminement s'est constitué cet ensemble que nous nommons Bible, à savoir Ancien et Nouveau Testament, indissolublement liés, pardon. Donc, répondre à ces questions, eh bien, c'est entrer dans le long processus historique de la formation du canon biblique. Ce n'est pas simplement une question d'étude historique, c'est de voir comment furent mis en œuvre les critères de discernement qui sont très importants, qu'il faudra toujours garder en mémoire. D'abord, je dirais que ce processus n'a pas été mené de façon arbitraire, vous vous en doutez. Mais ce processus a été mené par l'application de critères à la fois externes et internes qui ont été mis en œuvre parce que l'Église, sous la guidance du Saint-Esprit, a cherché à discerner, à découvrir la règle de la foi et de la vérité dans l'ensemble des livres qui circulaient dans les différentes églises locales, dans l'Église primitive. Donc, les livres canoniques, les livres que nous appelons ici en Occident deutérocanoniques, que les Grecs appellent anagignoskomena, les livres qui n'ont pas tous la même valeur canonique, mais qui, selon la tradition des pères, sont bons à lire, en particulier pour les catéchumènes qui se préparent au baptême. Donc nous allons commencer à entrer dans la question de la formation du canon biblique. Je rappellerai d'abord que ce mot canon, canon en grec, a un sens. En hébreu d'abord, kané. La première acception du mot kané, kof nun he, se trouve en Genèse 4:1-5, où est raconté le songe du pharaon et où le terme kané désigne la tige de 7 épis de blé que Pharaon voit dans son songe, songe qui sera expliqué, je le rappelle, par Joseph. Bon, je vais pas, c'est pas mon propos de développer la question du songe de Pharaon. Reportez-vous à Genèse 4 où c'est développé. Chez Ézéchiel, chez le prophète Ézéchiel, le terme kané désigne une canne, ou plus exactement un roseau qui sert à mesurer. Ézéchiel 40, verset 5. Je cite. C'est dans la vision du temple. Et voici le mur extérieur tout autour du temple, dans la main de l'homme un roseau à mesurer de 6 coudées. Fin de citation. Donc, à ma connaissance, il y a 5 occurrences de ce mot kané dans la Bible hébraïque pour désigner un instrument de mesure. Bon, peut-être en découvrirez-vous d'autres dans vos recherches, mais à ma connaissance, il n'y a que 5 occurrences de ce mot. Dans le Nouveau Testament, le terme canon est lui aussi lié à la mesure, à la règle dont parle saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 15 à 16. Pour nous, nous n'irons pas nous glorifier hors de mesure, mais nous prendrons comme mesure la règle même que Dieu nous a assignée pour mesure. Également en Galates 6, 16, le terme est repris. Alors, toujours à ma connaissance, il y a 15 occurrences de ce mot canon dans le Nouveau Testament. Et plus tard, dans la première génération chrétienne, qui succédera aux apôtres, chez les pères apostoliques, il servira pour désigner les règles, la règle de la foi ou les règles de la foi, mais également chez les pères des conciles œcuméniques, comme chez saint Athanase le Grand, chez Origène, chez Clément d'Alexandrie et bien d'autres. Il désignera la liste des livres bibliques reçus comme inspirés. On emploiera ce mot canon pour désigner la liste des livres bibliques reçus comme inspirés. Donc voyez-vous, la fixation d'un canon biblique, autrement dit, les livres reçus comme inspirés, eh bien, elle a constitué une nécessité pour l'Église. À la fois une nécessité, mais également un besoin. Un besoin d'abord, là c'est quelque chose de tout à fait évident, pour les différentes églises locales d'avoir une même règle de foi et pour cela de disposer d'une même écriture. Ce qui sera fait dans le temps pour le Nouveau Testament, mais jamais avec une unanimité totale pour les livres de l'Ancien Testament. Nous le verrons plus tard. Il y a dans l'Ancien Testament un certain nombre de livres qui seront reçus par tous, mais il y a un certain nombre d'anagignoscomena qui variera d'une église à l'autre, et c'est ainsi presque jusqu'à maintenant, je pense. Donc dans l'église primitive, à côté des livres incontestés dès le début, c'est-à-dire les quatre évangiles, l'évangile tétramorphe, comme l'appelle saint Irénée de Lyon, il y avait une pluralité d'usages. Bon, par exemple, vous savez qu'on a retrouvé des codex comme l'Alexandrinus, le Vaticanus et le Sinaiticus, j'en parlerai ultérieurement, dans lequel, à côté des livres canoniques, on retrouvait également des livres dont l'orthodoxie doctrinale était assurée, mais qui plus tard n'ont pas figuré dans le canon tel qu'il a été arrêté par le consensus de l'Église. Je reviendrai également sur cette question. Il y a également, dans le Nouveau Testament tel que nous le connaissons aujourd'hui, il y a eu problème en ce qui concerne la réception de l'Épître aux Hébreux entre les églises d'Occident et les églises d'Orient, l'Épître aux Hébreux, l'Épître de Saint Jacques, l'Épître de Jude et l'Apocalypse de Saint Jean. Il y a eu des difficultés ici ou là dans la réception de ces livres, difficultés qui se résoudront ultérieurement. Donc il y a ce besoin. Ensuite, il y a une nécessité. La nécessité, elle procède du fait que l'Église va être confrontée à un certain nombre de sectes hérétiques qui avaient souvent recours à des livres apocryphes fabriqués par elles-mêmes, ces sectes hérétiques, pour justifier leur doctrine hérétique. Donc il était indispensable de délimiter la liste des livres normatifs de la foi en les distinguant non seulement des livres apocryphes, beaucoup plus tardifs que les livres canoniques, évangiles et épîtres, mais aussi, et c'est important à considérer, des livres dont la doctrine était parfaitement orthodoxe, mais qui ne pouvait être reçu dans le canon en vertu d'une des règles fondamentales du discernement, à savoir la règle de l'apostolicité. Nous allons donc voir dans la deuxième leçon comment le canon de l'Ancien Testament de la Bible chrétienne s'est formé. Nous ferons référence aussi à la formation du canon dans le judaïsme, parce que dans le premier siècle de l'Église, le canon de la synagogue lui-même n'était pas complètement clos, et ce canon s'est formé également dans la polémique avec l'Église primitive, et nous verrons également donc la formation, ce qui est très important pour nous bien sûr, la formation du canon du Nouveau Testament. Voilà, merci de m'avoir écouté, et donc rendez-vous au mois de décembre pour la seconde leçon. Que Dieu vous bénisse.